Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre Chien et Loup, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Une rencontre très originale ce soir, avec une femme aux multiples vies. On aurait pu la croiser à Dakar ou à Vancouver, à Adélaïde ou à Dublin, à Nairobi ou à Berlin. Mais miracle, elle est avec nous dans notre studio d'Anguin et nous allons feuilleter avec elle les pages de ses nombreuses vies, de ses romans, de ses passions, mais aussi de ses drames, de la vie des gens qu'elle a rencontrés sur toute la planète, les différents mondes qu'elle côtoie ou qu'elle a côtoyés, des plus aisés aux plus précaires. Elle publie un roman au titre malicieux, La violoncelliste qui inventait des mots croisés érotiques, tout un programme, un roman où j'aimerais plutôt dire une romance très originale, comme son auteur d'ailleurs, une plongée dans un monde très contemporain, écrit avec la vivacité du monde contemporain. Bonsoir Hélène Elisabeth.
Bonsoir Claude Lévy.
Deux prénoms pour une seule personne, mais peut-être y a-t-il plusieurs personnes en vous et pas que deux. Plusieurs vies, plusieurs noms, plusieurs personnes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qui vous êtes, ou qui êtes unique?
Alors effectivement, j'ai plusieurs prénoms. Donc le prénom à l'état civil est Hélène, mais j'ai un second prénom Elisabeth et j'aime beaucoup beaucoup ce prénom que je trouve doux. Et donc j'ai décidé de prendre mes deux prénoms pour mon nom d'autrice. Et effectivement, comme vous l'avez très bien remarqué en préambule, j'ai plusieurs vies depuis que je suis née, puisque j'ai toujours eu une vie, pas d'errance, mais de multiples déménagements sur plusieurs continents. Et tous ces déménagements, tous ces départs, parfois des arrachements, ont forgé mon caractère et ma vision du monde. Et je ne dirais pas que j'ai plusieurs personnalités, mais effectivement, j'ai plusieurs facettes qui ont été...
Lesquelles ?
À la fois, je suis très introvertie, par exemple. J'aime être seule, mais j'ai également une vie sociale que je dirais épanouie. Donc j'ai un peu cette ambivalence d'aimer être seule, d'écrire seule, de ne pas trop sortir. Mais dès que je me pousse un petit peu, j'ai une vie sociale et je peux être très bavarde comme je peux être un peu mutique.
Mais vous avez à vos pieds des ailes qui vous ont conduit un peu partout. On va parler de votre existence sur tous les continents. Mm-hmm. Hein, vous avez vécu, vous dites, depuis que vous êtes née, vous êtes toujours nomade.
Voilà, je suis nomade depuis que je suis née. Je suis née à Dax, dans les Landes. Mes deux parents sont originaires d'un petit village qui s'appelle Cagnotte, à quelques kilomètres de Dax. Et ma maman n'habitait pas à cet endroit-là quand je suis née, mais elle est venue me donner naissance à Dax. Et rapidement, j'ai habité d'abord en région parisienne, en Alsace et puis en Allemagne. J'ai habité très longtemps en Allemagne étant enfant. J'ai grandi en Allemagne, j'ai fait mes études à Strasbourg.
Vous êtes économiste de formation ?
Non, je suis juriste de formation.
Juriste.
Je suis juriste, donc j'ai passé un bac scientifique. Et au lieu de me diriger vers une carrière scientifique, j'ai embrassé une carrière juridique. Donc déjà, des petits changements
rapides.
Est-ce
que c'était une vocation, le droit
Le droit n'était pas forcément une vocation. Au départ, j'aurais aimé être médecin et je manquais beaucoup de confiance en moi. Et je pensais que je n'arriverais pas à suivre de longues études, alors que j'avais de bons résultats scolaires. Mais j'avais pas du tout confiance en moi et je me suis dit, tiens, le droit, ça a l'air plus simple, ça a l'air plus court. Non, en définitive, j'ai fait 7 ans d'études pour devenir notaire. Donc j'aurais pu faire un peu de médecine, mais bon. Et j'ai étudié à Strasbourg. À Strasbourg, mes parents à l'époque habitaient encore en Allemagne. J'ai étudié à Strasbourg 4 ans et après je suis allée à Bordeaux pour passer mon diplôme de notaire.
Vous êtes donc une jeune romancière, mais pas si jeune que ça, puisque vous avez déjà publié plusieurs romans. La violoncelliste qui aura des suites d'ailleurs. La violoncelliste qui a inventé le mot croisé érotique aura d'autres suites. Hein. On n'a pas fini de vous retrouver avec Héloïse. Mais vous avez donc publié il y a quelques années un livre historique. Vous avez un profond attachement à l'Irlande. Et vous avez écrit une sorte de saga irlandaise. De quoi s'agit-il ?
Alors j'ai écrit donc le journal d'une jeune fille irlandaise après un séjour en Australie, puisque j'ai habité à Melbourne. Et à l'époque, je travaillais comme consultante, enfin comme intérimaire, on va dire, au consulat de France. Mais je venais de quitter l'étude de notariat dans lequel je travaillais. Et j'avais dans l'idée, en rentrant en France, d'être juriste d'entreprise. Et je voulais faire de l'anglais, enfin, améliorer mon anglais juridique. Donc je prenais des cours avec un avocat qui était d'origine irlandaise. Et en parallèle, je donnais des cours de conversation française à une Australienne, elle-même d'origine irlandaise.
Mais ce journal d'une jeune fille irlandaise, qu'est-ce qu'il contient ?
Alors ce journal est une chronique en fait, et les pensées d'une jeune fille qui vit en Irlande en 1845, avant la grande famine. Et c'est un peu l'histoire de cette jeune femme qui voit sa vie bouleversée pratiquement du jour au lendemain, qui doit en fait survivre, et qui était plutôt d'une famille assez aisée, petite bourgeoisie provinciale, qui se retrouve un peu dans le dénuement et qui doit travailler pour survivre, et qui devra ensuite s'exiler comme de nombreux Irlandais. Et l'idée m'a été donnée justement par ces deux personnes en Australie qui, elles, étaient descendantes d'Irlandais et qui avaient conservé les journaux intimes de leurs aïeux, et qui m'avaient conseillé d'aller à la bibliothèque de Melbourne, où il y a une grande section où on peut lire en fait les journaux des personnes qui venaient. Les Anglais ont une tradition en fait d'écriture de journaux intimes assez importante, et les gens donc notaient leur voyage, leur installation, et renvoyaient en Europe les livres. Il n'y avait pas évidemment le fax à l'époque. Donc ils renvoyaient leurs écrits, et certains les ont gardés, les ont jamais renvoyés à la famille. Et on peut lire comme ça de nombreux ouvrages avec l'histoire des personnes, monsieur et madame tout le monde, qui sont venus s'installer en Australie.
Oui, on découvre dans ce journal toute la difficulté qui a été presque téléguidée, télécommandée par les Anglais à l'égard des Irlandais au milieu du 19e siècle. Et c'est vraiment une histoire qui est extrêmement présente encore dans l'esprit des Irlandais, non ?
C'est une histoire qui est très présente justement en raison de ce... du fait que l'Irlande n'était pas un pays pauvre à l'époque. L'Irlande exportait du maïs, exportait des céréales en Angleterre, et il y a eu une famine organisée en fait par l'Angleterre qui, bien que voyant la population dépérir, continuait à exporter. Il y avait des stocks et des stocks de grains, et qui étaient exportés vers l'Angleterre, et la population irlandaise s'est trouvée privée de toute nourriture de manière organisée, d'où le ressentiment actuellement qu'il peut y avoir. Et justement, quand j'ai écrit là, le journal d'une jeune fille irlandaise, j'ai repris les journaux de l'époque que j'ai pu consulter sur Internet. Donc j'avais pris les gazettes de l'époque, et j'avais créé un énorme calendrier où j'ai reporté en fait tous les événements qui se sont produits et qui permettent en fait de comprendre comment cette famine a été organisée.
Oui, donc c'était votre première expérience de roman. Hein,
c'était ma première expérience de roman.
Et puis, en 2011, votre vie personnelle bascule d'une façon assez difficile. Vous pourriez nous dire, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui ont pu aussi connaître les maladies, qui ont pu connaître des grands drames personnels, dire ce qui s'est passé pour vous et comment vous avez pu... est-ce que l'écriture, en quelque sorte, est venue mettre un pansement difficile sur l'existence ?
Alors, je vais resituer le contexte. En 2011, nous habitions à Lusaka, en Zambie, et nous avions une vie de rêve. Et on était une famille unie, 4 enfants, un travail, une belle maison, un grand jardin où on pouvait jouer. Et comme dit mon fils, souvent, c'était l'apogée de la famille, parce que de la vie familiale et de la vie heureuse. Et un soir après l'école, pendant les activités extrascolaires, mes garçons jouaient au foot. Et Ewen, mon fils, qui avait à l'époque 8 ans, il trottinait sur la pelouse et il est tombé et il s'est cassé la jambe. Donc on était donc à Lusaka, les hôpitaux n'étaient pas très bien équipés. Il a été hospitalisé, ils ont fait une radio et comme il venait de se casser le fémur, il a été envoyé en Afrique du Sud pour une opération. On est revenu à Lusaka et sa blessure ne guérissait pas très bien. Et 3 mois plus tard, on a appris en fait qu'il avait un ostéosarcome, donc un cancer des os. Et ce jour-là, notre vie a basculé. C'est-à-dire, je pourrais vous dire... je revois la scène où on nous a téléphoné et où on nous a appris la nouvelle. Et de ce jour-là, notre vie a changé.
J'aimerais évoquer avec vous une autre disparition très récente de Christian Bobin. Mmh. Il nous a quittés il y a quelques jours à peine. Et j'aimerais citer un texte en hommage à lui et à Ewen et à sa maman qui est auteur et romancière. Et voilà ce qu'il dit à la fois de l'écriture et de l'écriture dans la vie. Christian Bobin. Dérobé à la mort son encrier. À la vie, une de ses plumes. Emprunter au vent quelques feuilles d'un blanc très bleu. Les alourdir avec des pailles de miroir, des grains de mots. Les plier en 4, puis en 8. Enfin, les coudre avec un fil d'absence. Sur les pages ainsi obtenues, répandre quelques ombres de décembre. Le petit livre achevé... Le lancer dans la nuit du monde, le plus loin possible. Ne pas se retourner, espérer qu'il se perde, qu'on le brûle ou même qu'on le lise. Comprendre que tout cela revient au même. Comprendre que dans ce jeu où l'on se tient sans pourtant jamais y jouer, l'on se tient à la place du mort. Nous allons écouter votre premier choix musical, Hélène Elisabeth. On va aller sur le lac, tout près d'ici, avec les cygnes, et on va écouter un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Je voudrais qu'on parle après avoir vogué sur les eaux calmes, qu'on parle encore un tout petit peu d'Ewen, parce que ça a été pour vous l'occasion, avec lui, d'écrire un livre à quatre mains, et il avait une personnalité tout à fait particulière. Dites-nous un peu quel était ce personnage qui a une courte vie mais très intense.
Exactement, vous définissez très bien Ewen. Il avait une personnalité vraiment particulière et depuis toujours en fait. C'était un enfant par exemple très très calme, très réfléchi, très mûr pour son âge. Et lorsqu'il s'est cassé la jambe en Zambie, on est parti du jour au lendemain en France pour son traitement. Et naïvement, au départ, on pensait faire des allers-retours entre Paris et Lusaka parce qu'on ne savait pas ce qu'était, en fait, le traitement d'un cancer de l'enfant. Et quand on est arrivé à Paris, les médecins ont été très clairs. Ils nous ont dit, oh là là, vous allez rester ici entre 8 et 12 mois. Et on s'est retrouvés tous les deux tout seuls à l'Institut Curie. Mon mari et les autres étaient restés à Lusaka. Et on s'est dit, mais que va-t-on faire? Mais 8 mois, c'est... Et Ewen, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, mais c'est horrible, c'est long. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 8 mois? Et en fait, très rapidement, j'ai eu cette idée d'écrire ensemble, de raconter son histoire pour qu'il puisse mettre des mots sur ce qui lui arrivait. Et on a eu l'idée de raconter l'histoire de deux petits garçons qui, tous les soirs, doivent inventer un stratagème pour s'évader de l'Institut Curie.
Et ça donne lieu à votre livre très, très, très touchant. Et c'est... Un grand moment pour mettre en valeur justement la personnalité forte d'Ewen qui reste très présent auprès de vous. Alors venons à notre roman, la violoncelliste. On va les suivre, on va les chercher la violoncelliste là où elle se trouve. Donc c'est Héloïse qui est musicienne. Vous aussi, vous avez un rapport assez fort à la musique, en quelques mots, avant de passer au roman.
Alors oui, effectivement, je fais de la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par jouer d'un instrument qu'on méprise un petit peu trop, qui est la flûte à bec, mais j'ai commencé avec une grande flûtiste à jouer de la flûte à bec, puis ensuite de la flûte traversière. Mais mon instrument de prédilection est le violoncelle. J'aurais rêvé jouer du violoncelle.
Ah ben justement, alors on va aller dans le roman. Ce roman, La violoncelliste qui inventait des mots croisés érotiques, vous nous plongez dans le monde à la fois très feutré et de jeunes musiciens brillants qui finissent leurs études au CNSM de Paris, hein, au conservatoire, on reconnaît les balades dans le parc de la Villette, les folies de Tchoumi qu'on aperçoit, etc. Et vous nous emmenez aussi dans leur monde intérieur, dans leur passion, dans leur jalousie, dans leurs peurs, dans leurs exigences, et tout ça avec un rythme et une force qui ne nous lâche jamais. Pourquoi avez-vous choisi ce décor du CNSM et puis le passage au quatuor? Est-ce qu'il y avait une intention de la musicienne que vous êtes?
Oui, je voulais vraiment ancrer ce livre dans la musique. Et bon, bien sûr, le violoncelle, puisque c'est mon instrument de prédilection. Et je voulais aussi, en fait, des musiciens pour moi sont vraiment des personnes qui sont à Paris, vivent une passion, c'est de l'art, c'est beau, ils font vibrer leur auditoire. Et c'est vraiment, je voulais vraiment ancrer ce livre dans la musique. Et mes personnages sont des étudiants parce que c'était sciemment que j'ai choisi des jeunes à une époque où je trouve que la société dénigre beaucoup la jeunesse. On entend souvent dire la jeunesse, ils sont feignants, ils critiquent. Moi, je trouve qu'en fait nos jeunes d'aujourd'hui sont mal considérés et on ne leur rend pas on ne rend pas le on ne leur fait pas honneur, en fait, au courage et au fait qu'ils doivent se battre tous les jours. Donc, je voulais des jeunes dynamiques, des jeunes qui ont une passion et qui se battent pour ce qu'ils veulent.
Alors, il y a un quatuor. Donc, dans un quatuor, il y a quatre personnages. Il y a Héloïse, il y a son amie Solène, il y a l'amoureux de Solène qui est Thomas, et puis il y a Cyril. Alors, ces quatre, comment vous les définiriez, ces jeunes, justement, animé par quoi ?
Animé par l'amour de la musique et aussi par le travail, en fait. Parce que je pense que pour être musicien, il faut travailler. Mais comme travaillent, en fait, les jeunes aujourd'hui, vraiment, moi, j'aimerais rendre hommage à notre jeunesse qui doit travailler trois fois plus que nous, que nos aînés, pour s'en sortir. Et donc, ces quatre personnages sont des jeunes d'aujourd'hui. J'avais envie d'ancrer ça dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et pour moi, ils sont le symbole de demain, le symbole de l'espoir et du dynamisme. Donc, j'ai essayé de trouver des caractères un peu variés pour monter ce quatuor.
Oui, en effet, ils sont très variés. Est-ce que cette même exigence qu'on trouve chez les musiciens, c'est-à-dire une rigueur absolue et du doute en permanence quand même, des difficultés, quelquefois on n'a pas du tout le moral pour jouer et on se sent pas vraiment en état, surtout quand on joue à quatre, c'est pas très facile. Est-ce que la romancière rencontre les mêmes difficultés et connaît les mêmes exigences ?
Oui, je pense que pour écrire, il faut se mettre à l'ouvrage chaque jour. Et il faut être exigeant avec soi-même pour ne pas perdre le fil de son travail et mener à bien un projet. Donc je pense que, dans ce sens, les musiciens doivent travailler tous les jours, mais comme, par exemple, les sportifs doivent s'entraîner tous les jours, les danseurs s'entraînent tous les jours, enfin voilà quoi.
Alors, la situation d'Héloïse dans ce quatuor est un peu particulière, puisque elle est engagée dans beaucoup de choses. Mmh. Rappelez-nous ses engagements. Elle a une thèse.
Donc Héloïse, oui, va bientôt soutenir sa thèse, tout comme ses amis. Donc elle est en fin d'études. Elle travaille tous les jours. Elle prépare sa thèse et elle est confrontée un petit peu à la vie étudiante que de nombreux étudiants connaissent et qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois, qui ont besoin à la fois de travailler pour leurs études sans savoir ce que demain va leur apporter, et également doivent financer leurs études. Donc Héloïse, qui a déjà beaucoup, beaucoup de travail, accepte un petit job étudiant pour mettre un peu de beurre dans ses épinards.
Et c'est là qu'on trouve les mots croisés.
Donc alors... Héloïse, en fait, accepte un contrat. On lui demande de bâtir le supplément jeu vacances d'un magazine parisien féminin. Et le thème de l'année, c'est l'érotisme. Donc on lui dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire les grilles de mots croisés, les rébus, les anagrammes ? Donc elle se dit, oh, ça va être facile, c'est amusant. Elle accepte, elle se lance dedans. Et puis, pour faire des mots croisés, il faut des mots. Et son vocabulaire est assez limité, parce qu'après avoir fait une petite liste d'une quinzaine de mots, elle s'aperçoit rapidement qu'il va falloir travailler pour obtenir du vocabulaire et faire des vraies grilles de mots croisés.
Alors, là, c'est Hélène qui a fait le travail, au moins Héloïse. Alors, Hélène, vous avez dû compulser pas mal de livres érotiques, et on en trouve une longue liste à la fin du roman. Vous avez... On va parler de vos découvertes, hein, mais les deux ou trois titres qui vous viennent et qui vous ont marqué pour préparer ce livre.
Alors, certains m'ont marqué pour différentes raisons. Donc, je vais essayer de... J'en ai lu beaucoup, effectivement. Je vais essayer de prendre un par raison, si on peut dire. Donc, je dirais... Le plus noir que j'ai trouvé et qui a inspiré le plus grand nombre de livres, ce serait Le Marquis de Sade, bien sûr, avec Justine. Donc celui-là, je le mettrais dans la catégorie des livres que j'ai trouvé difficile à lire. J'ai trouvé difficile à lire tellement il était noir. Donc dans les livres les plus noirs, ce serait Le Marquis de Sade. Dans le livre le plus doux que j'ai pu lire, je dirais L'Amant de Lady Chatterley, qui est classé roman érotique et qui est... qui est facile à lire, qui est gentil, on va dire, dans la littérature érotique. Et que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour ces descriptions, justement, la montée de l'amour et la transgression qu'il y avait à l'époque d'aimer quelqu'un qui était d'une classe sociale différente.
On va détailler un tout petit peu plus votre bibliothèque érotique, mais j'aimerais d'abord qu'on écoute votre choix musical et que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi ça. Il s'agit de Geoffrey Oryema, Land of Anaka. Qui est ce personnage? Pourquoi vous l'avez choisi? Allez-y.
Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai cru qu'on l'écoutait le morceau en premier. Donc en fait, j'ai découvert Geoffrey Oryema il y a très très longtemps. Geoffrey Oryema est un musicien, un compositeur ougandais qui a grandi en Ouganda, qui a grandi à Kampala et qui a dû fuir son pays en pleine nuit dans le coffre d'une voiture puisque son père a fait l'objet d'un assassinat politique sous la dictature d'Amin Dada. Donc sa vie a basculé. En un soir, il est parti dans ce coffre de voiture et n'est plus jamais revenu en Ouganda. Enfin, il y est revenu en 2016, je crois. Et ce morceau de musique fait partie de son album Exil. Et cette musique qui est vraiment très, très mélancolique, qui vraiment me porte, que j'ai trouvé vraiment très belle la première fois que j'ai écouté, raconte à la fois les heures sombres qu'il a pu traverser, mais au bout, en fait, un espoir.
On va écouter donc Geoffrey Oryema dans Land of Anaka. Voilà, on quitte les grandes plaines ou les grandes forêts de l'Ouganda décrites par Geoffrey Oryema. Vous êtes toujours sur IDFM Radio dans l'émission Entre chiens et loups avec Claude Lévy et je suis ce soir en compagnie d'Hélène Elisabeth, romancière, auteur de La violoncelliste qui inventait des mots croisés érotiques. Alors, je ne sais pas si vous étiez vraiment préparé à la lecture de votre pile de livres érotiques. Alors, vous avez commencé à nous parler du Marquis de Sade et de Justine et les infortunes de la vertu. Effectivement, c'est un texte assez sombre, pas très féministe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aussi, L'amant de Lady Chatterley, qui est plus doux. Il y en a d'autres à votre actif. Hein. Vous remontez à des livres antiques.
Oui. Alors, il y en a effectivement beaucoup d'autres. Et si je pense citer un troisième que j'ai vraiment aimé, c'est Les Belles Endormies. Que j'ai beaucoup aimé pour la poésie, en fait.
Les Belles Endormies, c'est doit être de Kawabata.
Oui, voilà. Yasunara Kawabata, pardon. Qui est vraiment est plein de poésie que j'ai vraiment aimé, mais qui, comme la plupart des livres en fait, m'a dérangé en fait. Et en fait, c'est le sort de tous ces livres. C'est vraiment certains, je les ai lus en riant presque tellement c'était burlesque. Et puis en fait, je me disais mais non en fait, non, ça n'est pas risible ou ça n'est pas beau parce que il y a toujours un fond. Et c'est aussi, on en parlera peut-être. C'est aussi ce que je retiens de toutes ces lectures, c'est que la place de la femme est vraiment dévalorisée dans pratiquement tous les livres que j'ai lus.
Oui, et sans être une féministe acharnée, comme vous le dites, mais féministe quand même, et ô combien, la littérature érotique, je suppose, vous le démontrez un petit peu à la fin du roman, laisse une grande place aux hommes. Il y a dans le livre, et j'aimerais que vous lisiez, un petit extrait où Alexandre, le père d'Héloïse, qui écrit des mots croisés érotiques, donc donne une assez bonne définition de ce que c'est que la littérature érotique. Voilà, je vous laisse lire ce petit passage.
Pour Alexandre, le père d'Héloïse, le but de l'écrivain était de troubler le lecteur, de lui instiller des envies, de parler de l'acte sexuel sous une forme esthétique, pas trop crue, sinon ce serait pornographique. À son sens, il ne pouvait y avoir d'érotisme s'il n'y avait pas une touche de transgression dans l'acte sexuel ou dans la description d'une scène érotique. Plus grande est la transgression, plus l'érotisme est poussé.
Voilà, donc c'est... voilà, les limites, en fait, il faut une sorte de cadre pour que la littérature érotique puisse fonctionner et être suffisamment porteuse de littérature, parce que en fait, il s'agit toujours de littérature.
Voilà, c'est ça. Je pense que le genre érotique est un genre difficile, parce que vous êtes effectivement dans un cadre, et il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de tomber dans la romance guimauve, et le second, c'est de tomber dans la pornographie. Et la ligne est difficile, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la ligne est difficile. Et pour moi, le véritable livre érotique, c'est celui qui parce que le but de l'érotisme, c'est de susciter l'envie, le désir sexuel. Mais s'arrête à ce désir sexuel, ça doit rester un désir. Dès que vous tombez dans quelque chose de plus graphique, vous tombez dans la pornographie. Et je trouve, parmi tous les livres que j'ai lus, dont j'en ai lu une cinquantaine, pour moi, certains n'étaient pas du tout érotiques. Je ne les ai pas trouvés beaux dans le sens de l'esthétisme érotique. Je les ai trouvés juste pornographiques. Certains étaient burlesques, certains étaient... too much, comme on dit, à la limite du risible, mais pornographique. Et véritablement, un vrai bon livre érotique doit rester érotique et non pas pornographique. Et la plupart, je les ai trouvés pornographiques.
Donc, restons dans la limite. Et dans la limite du roman, dans le quatuor, il y a quatre personnages, mais il y en a un cinquième qui est venu, évidemment, faire des passes de tango. Il s'appelle Alejandro. Mm-hmm. Il vient d'Argentine, bien sûr. Qui est-il et qu'apporte-t-il au quatuor?
Alors, Alessandro est le personnage qui vient peut troubler la partition magnifique que ce quatuor est en train de jouer. Et c'est un jeune homme, pareil, dynamique, qui a étudié l'histoire des jardins, qui est un jardinier d'art, en fait, et qui entre dans la vie d'Héloïse par la fenêtre.
Certains aimeraient bien qu'il en sorte par la porte.
Certains aimeraient bien dans le quatuor qu'il en sorte par la porte, notamment donc Cyril, qui est un des membres de ce quatuor et qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce bel âtre sud-américain.
Ouais, c'est le Cyril n'est pas le personnage le plus sympathique du roman, mais alors il y a un autre personnage qui provoque des sensations à la limite de l'érotisme, c'est un instrument. C'est le violoncelle d'Héloïse. Et j'aimerais lire ce passage où vous donnez un peu quelles sont les sensations que cet instrument provoque. Elle aimait tout en lui, sa couleur chaude, sa voix de velours, son timbre boisé, ses courbes, son contact. Là encore, la rencontre avec l'instrument avait été un moment particulier, attendu et encore une fois inoubliable. Il avait une tonalité plus chaude encore que le précédent violoncelle. Il s'était laissé embrasser, caresser. Elle s'était assise, les pieds bien à plat, avait connecté son corps au sien pour mieux en ressentir les vibrations dans les jambes et le torse. Elle avait écouté attentivement sa tessiture qui lui plut. Il était facétieux et Héloïse avait mis du temps à le connaître totalement et à construire une relation authentique avec lui. Elle avait dû apprendre à accepter ses sautes d'humeur passagères. Elle appréciait le velouté et la beauté du timbre lorsqu'elle caressait ses cordes ou sa réponse quand elle les frappait avec fougue. Le lien étroit qui les unissait s'était renforcé pour devenir fusionnel, intime. Quelle déclaration !
Alors je suis très heureuse que vous parliez d'un autre personnage parce que je pense qu'effectivement le violoncelle dans ce roman est un personnage en lui-même. En général, il existe une relation particulière entre le musicien et son instrument, parce qu'il l'utilise tous les jours, il essaie de rendre le meilleur de son instrument. Et particulièrement, je trouve, moi, le violoncelle pour la forme du violoncelle qui est tout en courbe, par la tessiture, la voix du violoncelle qui est, je le rappelle, l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine, donc qui nous prend en fait aux tripes, si je peux dire. Quand on entend un morceau, enfin en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai entendu un morceau de violoncelle, qui était le cygne dans le Carnaval des animaux, j'ai vraiment ressenti, avant d'apprécier la mélodie, j'ai ressenti cette musique qui m'a touchée au plus profond de moi-même. Et ce violoncelle est vraiment... C'est un instrument qui est sensuel par le bois qui était un matériau noble, par les formes, tout
et,
quoi. Tout
et ça. Puis, dans le roman, il y a un certain tableau de Robert Bérény qu'on pourra aller voir et qui montre précisément ce que vous êtes en train de dire.
Où on voit effectivement une jeune femme qui embrasse ce violoncelle, qui est penchée sur son violoncelle et qui fait corps avec son violoncelle. Et vraiment, s'il y a un instrument où on fait corps avec avec son instrument, c'est celui-là. On embrasse vraiment le violoncelle, on s'installe, on met les pieds bien à plat et on ressent sa musique.
J'aimerais qu'on passe à une autre vie parmi les nombreuses que vous avez, c'est celle de la voyageuse du Tour de la Terre. Vous avez vécu en Asie, vous avez vécu aux États-Unis, vous avez vécu en Afrique, en Australie, en Europe. Est-ce que de tout cela, vous avez une sorte de vision du monde qui est éclairante pour nous?
Alors, enfin, ce n'est pas parce qu'on a vécu dans de nombreux pays qu'on a une seule vision du monde. Mais si, ce que je peux retenir de ces différents voyages et de ces différentes expériences, c'est une vision de la vie. J'ai vraiment, tous ces voyages, toutes ces découvertes m'ont donné une vision de la vie et surtout d'apprécier la vie que l'on peut avoir, quelle qu'elle soit. C'est ça ce que m'apporte en fait.
Vous avez été dans des pays où les très grandes richesses et la très grande pauvreté peuvent coexister. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, Hélène, Elisabeth ?
Oui, j'ai habité dans des pays, par exemple, le premier pays africain dans lequel j'ai habité, c'était la Zambie, qui est un pays minier, qui a du cuivre, qui a également des émeraudes, qui a un sol très riche et qui a des richesses, mais un pays également extrêmement pauvre. Et quand nous avons déménagé dans ce pays avec nos enfants, nous arrivions des États-Unis où ils avaient une petite vie dorée dans une banlieue dorée de Washington. Et on est arrivé, on a eu une très belle maison et avec mon époux, on ne voulait pas que nos enfants passent d'une prison dorée à une autre prison dorée. Donc on a essayé de leur ouvrir les yeux sur ce qu'était la vie en dehors de leur jardin et de la piscine qui était à côté de la maison. Donc on a essayé de les sensibiliser à la vie des personnes qu'ils côtoyaient sans les voir et qui vivaient dans des conditions vraiment différentes des leurs. Donc je prends souvent l'exemple, quand on partait le matin, à l'époque ils étaient à l'école française, on partait le matin et on avait la possibilité de deux routes différentes, l'une qui prenait une belle route à quatre voies, sans ornières, qui était magnifique, qui était rapide, et une autre qui était un peu plus chaotique, qui avait des trous et qui avait la particularité de passer, qui longeait un bidonville. Et d'un côté vous aviez le bidonville, de l'autre côté vous aviez des tas de cailloux. Et alors donc au début de la route vous aviez des grands tas de cailloux avec des gros cailloux et plus vous avanciez plus les cailloux étaient fins et tous les matins on voyait donc des femmes et des enfants qui cassaient des cailloux pour en faire des tout petits cailloux à la fin de la journée et tous les matins on voulait que nos enfants se rendent compte en fait de la chance qu'ils avaient et de ce qu'était la vie aussi de ces enfants qu'ils ne voyaient pas forcément mais qui étaient là et qui avaient une autre vie que la leur.
Est-ce que cette misère-là, vous l'avez rencontrée partout là où vous avez voyagé ?
Aux États-Unis, en Afrique. Pour celui qui veut chercher, il trouve. Pour celui qui reste dans sa belle banlieue pour expatrier, il a une vie magnifique et il ne peut ne rien voir. Mais pour peu que vous vous intéressiez à ce qui se passe autour. Mais j'aurais envie de dire, ce n'est pas tellement le propre des expatriés. Ici en France aussi, on peut vivre dans son beau quartier et se dire, oh là là, les expatriés, ils vivent bien à côté de la pauvreté. Mais c'est le cas chez nous aussi. En fait, celui qui veut voir la misère peut voir la misère et peut faire quelque chose.
Il se trouve que votre mari, dont vous parlez à plusieurs reprises, a des responsabilités comme économiste à l'échelle du monde, et ce qui explique en partie vos voyages. Vous ne pouvez pas évidemment parler à sa place, mais j'aimerais que vous nous donniez quelques clés pour qu'on puisse comprendre, nous, quels sont les enjeux de cette planète sur le plan économique?
Donc mon époux, comme vous le disiez, travaille pour une organisation internationale qui est la Banque mondiale et il travaille dans le secteur de la gouvernance, la réforme de l'État. Il était au départ spécialiste des pays enclavés soviétiques et maintenant il s'est spécialisé sur l'Afrique. Et il est d'une famille, alors tout de suite, dès qu'on dit Banque mondiale, on voit le grand Satan qui apporte de l'argent. Il est mon époux est d'une famille de gauche, voire d'extrême gauche, et ça l'a amené à réfléchir. Et quand il a rejoint cette organisation, ça l'a amené à réfléchir aussi sur ce qu'il pouvait apporter lui en tant qu'économiste. Et il avait l'envie de faire quelque chose. Alors on pourra toujours décrier ce genre d'organisation et dire ce sont des gouttes d'eau, mais au jour le jour. Il travaille et il a foi dans le développement et dans ce qu'il fait pour essayer d'apporter un monde plus juste où le partage des richesses peut se faire.
On va le laisser travailler à tout ça. Vous avez, il y a très, très peu de temps, fait un voyage absolument incroyable qui m'a étonné. C'est que vous avez traversé les États-Unis d'est en ouest sur peut-être 6000 kilomètres, 7000 kilomètres, je ne sais pas. Mais qui a été particulier parce que c'était un voyage en train. Mmh. Racontez-nous quelles images vous pouvez en garder aujourd'hui.
Alors bon, 6000 km, c'était peut-être un peu beaucoup, mais c'était un très long voyage. On est parti de Chicago pour aller jusqu'à Seattle en train, dans un train qui est mythique, qui s'appelle l'Empire Builder. Et c'est vraiment un voyage qui est particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous restez plus ou moins enfermé dans votre wagon pendant 45 heures. Et puis, vous traversez plusieurs états qui sont fort différents. Vous traversez trois fuseaux horaires. Vous partez d'une côte des États-Unis à une autre. Vous partez de l'Atlantique, vous allez jusqu'au Pacifique. Et ça restera vraiment... Bon, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup voyagé. Pour moi, ça restera vraiment un voyage que je mettrai à part parce que c'est un huis clos, en fait. C'est un huis clos et vous regardez le monde se dérouler sous vos yeux.
Qu'est-ce qu'on voit derrière les fenêtres de ce train ?
Alors, quand on part de Chicago, on part par les banlieues de Chicago. C'est un peu le genre de paysage qu'on peut voir dans les vieux films avec ces bâtiments en briques, avec les échelles à l'extérieur. Et une banlieue un peu industrielle, pas très jolie, mais qui est aussi la facette des États-Unis. Et très rapidement, en fait, vous arrivez dans les plaines, dans des paysages plus, au départ, un peu de, comment dire, la nature remplace les villes. Et ensuite, vous traversez pendant de très, très longues heures le Montana, qui est vraiment un paysage de plaine. Plat. Et à certains moments, quand la lumière était belle, je me souviens, le matin ou même le soir au coucher du soleil, on avait presque l'impression d'être dans la savane africaine. Tellement c'est plat, grand, enfin infini, quoi.
Le Montana, c'est une sorte de creuset de la littérature américaine.
Mais alors, on peut le comprendre parce que donc on a traversé le Montana, ça n'en finissait pas et c'était vide. Et je peux comprendre pourquoi c'est le creuset de la littérature américaine, parce que je pense que pour vivre dans le Montana, il faut avoir une personnalité particulière pour se faire à cette infinitude en fait de la plaine. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'industrie, c'est un état qui est assez pauvre. On a vu des maisons en ruine, des gens qui vivaient dans leurs roulottes. Vraiment, c'est pas du tout l'image de l'Amérique triomphante que vous voyez quand vous traversez le Montana. Et enfin, c'est vraiment un pays qui inspire les gens qui y vivent.
Effectivement, et Jim Harrison et Richard Ford en particulier ont énormément écrit sur ces régions. On va revenir un peu au côté celtique qui habite votre vie. Votre troisième choix, c'est Cécile Corbel. Cécile Corbel qui est une harpiste.
Cécile Corbel qui est une harpiste, une chanteuse, une compositrice bretonne qui est pour moi vraiment une artiste exceptionnelle par la beauté de ce qu'elle peut faire ressortir. Elle a une voix aérienne assez féerique, elle a des musiques qui sont vraiment sublimes. Elle a composé la musique d'Arietti, un des films des studios Ghibli, et c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup.
Et on l'écoute dans Waterfalls. Yeah. Toujours sur IDFM Radio, dans l'émission Entre chiens et loups, et nous avons le plaisir ce soir de rencontrer Hélène Elisabeth, romancière, observatrice de nombreuses régions du monde, auteure de La violoncelliste qui a inventé des mots croisés érotiques. Dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais profiter de votre présence et de votre connaissance du monde pour que nous puissions nous arrêter encore un peu sur les questions qui se posent à vous au travers de tous ces voyages, de tous ces séjours, de toutes ces rencontres aussi, notamment en ce qui concerne les problématiques d'éducation, de santé, d'environnement, les situations économiques, la corruption, enfin, voyez, toutes ces questions, si vous pouviez nous faire un petit résumé de votre vision actuelle sur les enjeux, encore une fois, du monde. Compléter votre propos d'un instant.
C'est très bien que vous mentionnez l'éducation, parce qu'en termes de développement, vraiment, pour qu'un pays se développe, il faut vraiment commencer par l'éducation. On voit que tout part de l'éducation. Un pays où les enfants n'ont pas accès à l'école est un pays qui ne pourra pas se prendre en main plus tard. Mais pour pouvoir être éduqué, pour pouvoir aller à l'école, il faut également pouvoir manger. Et il y a vraiment une corrélation entre la malnutrition et la capacité à réfléchir, la capacité à pouvoir étudier. Donc l'éducation et le combat contre la malnutrition sont vraiment les fondations d'une organisation qui a pour but le développement d'un pays. Donc ça, je pense que ce sont la base, en fait, du développement. Ensuite, arrivent d'autres enjeux qui sont, une fois que vous êtes éduqué, une fois que vous avez quelque chose à manger, il faut pouvoir vivre, commercer. Donc vous avez le transport qui est très important, améliorer les transports dans un pays. Et une fois que vous avez ça, que vous avez un commerce, que vous avez des personnes qui ont enfin la possibilité de manger, de ne pas tomber malade, vous avez l'organisation sociale qui peut se mettre en place et penser, en fait, après, une fois qu'on a réglé les problèmes les principaux. Je trouve que l'organisation va avec l'organisation sociale, la gouvernance d'un pays, sa capacité à utiliser correctement ses richesses, sa capacité à ne pas capter les richesses et à en faire profiter le maximum.
Il y a, semble-t-il, des différences entre, en prenant le continent africain, entre l'Ouest et l'Est, vous pointez de grandes différences, vous qui avez vécu des deux côtés.
Ouais, alors c'est vraiment une expérience personnelle qui n'est pas... je ne suis pas économiste, hein, c'est vraiment une expérience personnelle. J'ai trouvé, oui, de très grandes différences entre l'Est, où on a des pays qui sont, à mon sens... bien organisé, c'est peut-être difficile,
mieux mais mieux,
qui me semblait moi mieux organisé, qui ont une philosophie différente, avec des personnes que j'ai trouvées assez réservées, qui sont dans la retenue, dans la réserve, alors que sur le continent ouest africain c'est plus l'exubérance, c'est plus
des latins
voilà, peut-être plus latin. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment aussi, si on peut parler un peu développement, moi j'ai travaillé un peu sur l'inclusion financière, et quand j'étais en Afrique de l'Est, par exemple, tous les paiements se faisaient par téléphone, par M-Pesa, et ça avait deux avantages, ce paiement par M-Pesa, à la fois permettre aux personnes qui vivent loin, qui ne sont pas dans le circuit économique, de pouvoir transférer de l'argent, recevoir de l'argent, payer, enfin avoir une vie économique, mais également de tracer les paiements, assurer une certaine transparence dans les paiements. Et vraiment, dans l'Afrique de l'Est, c'est vraiment quelque chose d'acquis, la transparence des paiements au quotidien.
La transparence, c'est une certaine forme de rigueur.
Et peut-être aussi avec une certaine forme de rigueur que je n'ai pas retrouvée en arrivant en Afrique de l'Ouest, où pour moi c'était évident de pouvoir payer, de pouvoir justifier de mes paiements, et où le liquide a encore beaucoup de beaux jours devant lui, quoi. Donc qui dit liquide dit peut-être aussi plus de possibilités de dessous de table ou autre, quoi.
Donc, en effet, les problématiques qui sont liées à certains pays, notamment au travers de la corruption, le contraire de la transparence, c'est tout ce qu'on cache, mais tout ce qui a l'air de faire partie de la vie, et ça sera peut-être assez difficile pour les les grands fonctionnaires internationaux de pouvoir continuer à former et informer et alerter les dirigeants.
Mm-hmm. Bon, après, mon propos, c'est pas dire que c'est plus corrompu à droite ou à gauche, mais dans mon expérience personnelle de femme expatriée, j'ai trouvé dans certaines modalités de paiement matière à réflexion à l'Est que je n'ai pas pu retrouver à l'Ouest.
Voilà, on continuera la réflexion aussi dans les prochaines années. Je pense qu'on n'en a pas fini. Un très grand merci, Hélène, Elisabeth, pour votre lucidité, votre générosité, votre goût du partage. Je rappelle le titre de votre roman ou romance, La violoncelliste qui inventait des mots croisés érotiques. On trouvera d'ailleurs beaucoup de jeux de mots croisés et d'anagrammes à la fin du roman. C'est très, très amusant. Merci, un grand merci à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre Chien et Loup sur IDFM Radio. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Thank you.